La pluie a cessé, le temps est à présent idéal, beau et doux. Nous partons visiter le Nijojo, l'ancien palais impérial. La qualité d'admiration de Pep me frappe une fois de plus. Elle se fiche d'extase devant les peintures et s'imbibe de leur splendeur jusqu'à la transe. À ce rythme, l'exploration du palais dure 2 heures et demie. Le parquet du Nijojo produit ce fameux chant de rossignol qui ressemble plus à un crissement de cigale qu'à autre chose. Il n'empêche que ce son singulier provoqué par nos pas participe à la magie du château. Nous sautons dans un taxi. Le pavillon d'or, je vous prie. Mon ami semble à l'altitude voulue pour le découvrir. À la vue du Kinkakuji, elle se met à trembler.
« Le moine du bouquin de Mishima a raison, » dit-elle. « Il faut y mettre le feu. »
Ce doit être la 6e fois de ma vie que je contemple le pavillon d'or. Le revoir en compagnie de Pep extatique produit le meilleur effet. Le contact eye agit. Nous sommes 2 à vouloir incendier ce temple, vaincus par cet excès de beauté. En plus, le roman de Mishima est un mot de passe entre elle et moi. Pour toutes les 2, le pavillon d'or a joué le rôle d'un bréviaire. Je l'ai lu à 13 ans, Pep à 23 ans, et nous y avions vu, chacune de notre côté, un mode d'emploi du sublime. La pyromanie nous avait paru appropriée. D'où que nous l'envisagions, le Kinkakuji flambe au soleil. Sa splendeur est une provocation. Se contenter de le contempler humilie. On veut participer, et comme on ne le peut pas, on détruit. En haine de la beauté, précise Mishima. Tout plutôt que la tiédeur. Posé sur sa cime, le phénix d'or s'élance, toujours selon Mishima, à travers le temps. Le temple a fait ses preuves. Anéanti par le feu dans les années 50, il est reconstruit selon la même méthode, ce qui constitue au Japon la seule éternité qui vaille. Son incendie figure désormais comme une péripétie digne de ne pas être mentionnée. Pep photographie le pavillon d'or avec son téléphone. « De ma part, c'est un crime professionnel, » dit-elle. « Je comprends. À chacun son feu. Son extase n'est pas pour autant amoindrie. Interrompre un tel syndrome de Stendhal serait insensé. Afin de poursuivre l'orgie, j'emmène mon ami au pavillon d'argent. Nous réagissons de plus belle ensemble et de plus en plus fort. Tremblements et claquements de dents ne nous gênent plus. Nos pupilles dilatées nous voudraient des soupçons si notre attitude ne relevait pas de l'évidence.
« Je ne serai plus jamais comme avant, » dit encore Pep.
Au sortir de l'enceinte, j'avise le commencement du chemin de la philosophie. Ce n'est indiqué qu'en japonais comme quoi personne n'a songé à faciliter l'exploration aux étrangers. La dernière fois que j'ai arpenté le chemin de la philosophie, c'était en août 1989 avec mon père. La chaleur nous avait tant écrasés que nous avions plus transpiré que philosophé. Mai 2023, printemps délicieux, mon ami et moi nous engageons dans le fameux chemin en proie à la joie ultime. N'est-ce pas l'aboutissement de la philosophie? Nous avons quitté le temps. Nous marchons le long de la rivière depuis toujours. Quand nous atteignons l'extrémité du chemin, nous adoptons sans réfléchir l'unique attitude philosophique possible. Nous continuons à marcher dans n'importe quelle direction. Nous sommes à Kyoto et nous marchons. Nous n'avons pas besoin de plus. Les ruelles nous conduisent, la ville nous propose assez d'étendue pour que nous puissions nous y égarer ad libitum. Nos pas choisissent d'instinct la périphérie plus que le centre. Nous croisons un zoo. Le zoo de Kyoto. Je ne savais pas que cela existait, dis-je. Nous nous y rendons. C'est un zoo ordinaire. Il n'y a pas de mal particulier à lui attribuer. C'est déprimant comme un zoo. Notre exaltation s'effondre. J'explique à Pep que ce n'est rien, que la joie creuse des gouffres. Nous n'y demeurerons pas. Mon ami s'entête dans le marasme. Un zoo à Kyoto. Pourquoi pas un bunker à Venise? Je l'entraîne vers la sortie. Pep ne décolère pas. J'essaie de changer de sujet. C'est impossible. La rage trouve mieux son chemin que l'extase. Nous arrivons à la Ryokan. Le tenancier nous salue avec une politesse exagérée. J'en rajoute une couche, histoire de rester dans le ton. « Ce type a une tête de gardien de zoo, » dit Pep. En guise de diversion, je propose de nous rendre au bain public. Qu'est-ce que tu as contre la baignoire de ta chambre ?
Rien, c'était pour changer.
On n'a pas déjeuné ce midi. J'ai faim.
Je connais cet appel, il est à considérer.
Quand mon ami a faim, sa mauvaise humeur peut devenir dangereuse. Nous repartons dans les rues à la recherche d'un endroit où dîner.
Que penses-tu de cette sobaya ?
Il y a mieux, non ?
Regarde ce restaurant, il a l'air bien.
Il t'en faut pas beaucoup.
Cercle vicieux, plus Pep a faim, plus elle voit tout en noir et moins les menus lui conviennent. C'est ainsi que nous mettons des siècles à ne pas la contenter. 2 heures plus tard, elle consent à s'attabler dans un bouge où on nous sert de la soupe à l'oudon.
C'est pas fameux, dit-elle en mangeant à bouchée affamée.
L'appétit calmé, chacune rejoint sa chambre. Je dors sans demander mon reste. Miracle du matin. Le sommeil a effacé l'ardoise. L'avenir nous fait crédit à nouveau. Nous prenons le train régional pour Nara. Personne n'aura à cœur de s'informer sur Nara à travers ses notes. Je m'épargne donc les considérations d'usage. Pep découvre les célèbres daims avec tant d'enthousiasme qu'elle en oublie le zoo de la veille. Par un temps idéal, nous montons vers le Todaiji. Je ne me rappelais plus son immensité. Pep s'avère une caisse de résonance extraordinaire. Elle vibre comme le tambour local. Elle répercute l'onde de choc en 1000 fois plus fort. Je ressens le Todaiji à travers la loupe de ses émotions. À nous deux, nous formons un accélérateur d'extase d'une efficacité redoutable. Le temple escalade les contreforts de la montagne. Nous nous élevons avec lui. La grimpette nous agrandit. Nous tutoyons les déités qui nous répondent de bonne grâce. Plus nous gravissons d'escaliers, plus nous avons envie d'en gravir. Quand nous atteignons les plus hautes ramifications du Todaiji, nous nous arrêtons. La vue nous saisit. Nara, d'autres montagnes. Nous nous asseyons pour boire un thé. C'est parfait. Je voudrais rester ici toujours. Nous restons ici toujours. Pourquoi aller ailleurs ? La cloche du temple retentit. Chacune de mes côtes en résonne. Qu'est-ce qui est plus arrogant ? Dire « nous » ou dire « je » ? Attribuer un sentiment à qui que ce soit, surtout à soi-même, n'est-ce pas manquer de retenue ? À de tels moments, je regrette de ne pas fumer. Il me semble que ce serait une forme de présence plus intense. Cela tombe bien néanmoins puisque c'est interdit. Tabaco au Suanai est-il indiqué sempiternellement ? Ne sucez pas de tabac. Avis aux suceurs de cigarettes. Pep ne fume pas non plus. Nous avons pour point commun l'asthme. Modéré dans mon cas, démentiel dans le sien. Pour Pep, une bouffée de cigarette équivaudrait à une tentative de suicide. Mais là, l'air est pur et nous respirons à plein poumon. Hyperventilé, la modification de conscience la plus accessible. Plus je me gorge d'oxygène, plus notre promontoire m'apparaît comme le lieu absolu. Je voudrais rester ici toujours. Quand on ne sait plus si c'est l'autre ou soi ou personne qui parle, c'est un signe excellent. Quelque chose advient qui relève de l'épiphanie. Je renverse la tête en arrière et je goûte un morceau de ciel. « On bouge ?» dit Pep. Ce qu'elle est sûre d'elle. Elle a raison, nous conservons l'épiphanie en marchant. Se précipiter dans la descente n'est pas si facile. L'escalier est un exercice zen qui enseigne la juste vigilance des pieds. Nara est une petite ville de province. Nous avons dépassé l'heure du déjeuner. Un cuistot nous propose cependant un bol de riz et un œuf cru. J'accepte avec un cri de joie. Je me rends compte que c'est le repas de mes rêves. Pep, dégoûté, me voit casser l'œuf et le mêler au riz brûlant à l'aide des baguettes. La dernière fois que j'ai eu droit à ce festin, j'avais 5 ans. Cela me plaît toujours autant. Je gémis de délices. « Il t'en faut pas beaucoup, » remarque mon ami. « Ce n'est pas mon avis. » Le cuistot a la tête des gens du Kansai. Il me regarde manger avec approbation. J'ai envie de coller des baisers sur ses bonnes joues. Nous allons visiter le temple des cloches. Mon cerveau devient non-verbal, je n'imprime pas son nom. Pourtant, en le revoyant, je m'en souviens comme si j'étais venue la veille. Ce fameux voyage d'août 1989 avec mon père, qui le désignait comme notre pèlerinage. Cette appellation le dit bien. Nous étions en 1989 sur les traces de 1972. C'était une équipée dédiée à la nostalgie, vertu cardinale de mon père, dont j'ai hérité à 100%. Si 1989 poursuivait déjà un but aussi intime, comment éviter que 2023 cherche les vestiges de 1989 en plus de ceux de 1972. Il me prend un vertige à l'idée d'avoir vécu si longtemps. Ces dates sont si lointaines. En 1972, déjà, donnant la main à mon père, j'avais visité le temple des cloches. C'était lui, le modèle initial du voyage. Pire, je m'en souvenais. Plus grave encore, en 1972, déjà, j'étais en proie à la nostalgie. Non pas d'une venue précédente, mais du présent d'alors. J'avais 5 ans et je savais que j'allais quitter le Japon et j'en avais d'avance le cœur déchiré. Et mon père également. Nous avions, lui et moi, inventé la nostalgie préventive. Idée romantiquement funeste, vaccin inspirant, se contentant d'agrandir dans l'âme la région dévolue à la nostalgie rétrospective. Papa, quel est notre problème? Et pourquoi me l'as-tu légué? Que suis-je censé faire de ces émotions tentaculaires? Si au moins je savais le temps de ma souffrance. Afin d'en supporter l'idée, je prends la seule décision possible. Il n'y a pas de temps. Le temple des cloches le prouve. Il n'a pas changé d'une poussière depuis 1972 et 1989. Allons jusqu'au bout du raisonnement. Moi non plus, je n'ai pas changé. Pour être plus précise, je me reconnais mieux en 1972 qu'en 1989. Me comparer à une jeune femme de 22 ans me semble plus absurde que me parangonner à l'enfant sonne. Cette dernière m'habite profondément. Donc j'ai 5 ans et je découvre le temple des cloches à Nara en 2023 avec mon ami Pep Benny. Cela fonctionne. Elle ne s'aperçoit pas de ma métamorphose. Elle photographie avec son iPhone les déambulatoires du cloître bouddhique. J'ai l'instinct de lui tendre la main. Qu'est-ce qui te prend? Sa réaction me rappelle à l'ordre. Il faut jouer à l'adulte. Comment procéder? Dire un truc idiot? Dont acte? C'est beau, n'est-ce pas? Puis je me détourne et je continue d'explorer mon passé enchâssé dans ce temple. Ma remarque était idiote et pourtant exacte. Je me réponds à moi-même. Ouais, c'est tellement beau. Si je vis encore longtemps, n'excluons pas qu'un jour je revienne à Nara. Ajoutant au vol au vent de ma nostalgie un feuilletage supplémentaire. Notre admiration se poursuit quelques heures durant, puis Inopa nous ramène vers la gare. Je réprime un élan de fierté. Je n'ai pas montré à mon amie les cimes de nostalgie que j'ai atteintes. Ce doit être en partie pour cela qu'elle est à ce point enchantée de l'excursion. Dans le train, Pep me dit « Merci, tu as été un bon guide. Le Kansai, ça te connaît. » Un si grand éloge. Tout cela pour avoir caché mes larmes et pour m'être tue presque sans discontinuer. Il me semble ne t'avoir rien dit. Ton silence ne manquait ni de précision ni d'enseignement. De retour à Kyoto, nous passons notre dernière soirée dans le Kansai à Gion. Les geishas que 2 nuits auparavant nous avions surprises à 1 heure du matin sont moins fascinantes à 20 heures. Nous saluons notre héron, fidèle à son poste. Nous dînons d'une tempura encyclopédique. Chaque fleur est prétexte à une friture nouvelle. Le lendemain, nous prenons congé de la ryokan. Pep est salué comme un général victorieux. Les jeunes femmes de l'auberge s'inclinent devant elle, lui offrent des cadeaux, me prient de lui traduire des paroles suaves. Le tenancier ne se montre pas. Quand le taxi nous emmène, les admiratrices de mon ami demeurent prosternées aussi longtemps que nous restons dans leur champ de vision.